Pour conclure cette 18e édition de l'Université chrétienne d'été de Castanet, qui avait pour thème cette année « La paix aura ton visage », le père Arnaud Franck, prêtre diocésain, nous invitait à nous replonger au cœur de la liturgie, signe et source de paix.
Bonsoir à tous et à toutes, heureux de vous retrouver pour parler de la liturgie comme source de paix. Alors comme vous le voyez, il n'y a pas de point d'interrogation. On aurait pu en mettre deux. Parce que face à tous les enjeux liés à la paix, qu'est-ce que peut bien faire la liturgie? Franchement, les enjeux sont tellement considérables que notre liturgie est bien petite par rapport à tout ça. Et puis, le deuxième point d'interrogation est plus important, on va dire. Comment la liturgie peut-elle être une source de paix quand elle est à la fois la source et le sommet de tant de divisions et de tensions entre chrétiens et entre catholiques? Ce sont des grandes questions que je préfère mettre de côté, surtout la deuxième, non pas pour les fuir, mais pour que parce qu'elle nous entraînerait surtout sur d'autres voies. Mais elles ne manqueront pas de résonner d'une manière ou d'une autre dans ce que je vous propose. Je vous propose davantage de regarder la liturgie comme une source de paix. Affirmer cela, c'est donc aller au-delà de toutes les tensions humaines. C'est toucher aux profondeurs. Les profondeurs que le pape François avait si bien résumées et si bien développées dans un texte intitulé « Desiderio Desideravi », une lettre consacrée à la liturgie publiée le 29 juin 2022, où il nous rappelait que la liturgie est le lieu de la rencontre avec le Christ. Un lieu pour lequel nous devons nous former, mais un lieu qui nous forme. Et c'est avec cette conviction profonde que je désire moi-même commencer ce temps. La liturgie, il faut se former en liturgie, mais la liturgie nous forme. Et je crois que la liturgie nous forme à la paix. Dans ce texte du pape François, Desiderio Desideravi, le verbe « contempler » résonne souvent. Alors c'est à une contemplation que je nous invite ce soir. Une contemplation de 5 voies liturgiques qui nous forment à la paix, qui nous conduisent à la paix, et dans lesquelles j'espère résonneront des choses que vous avez entendues, car il se trouve que c'est la dernière conférence de cette session, et je pense que la liturgie peut être ce lieu où tout peut résonner. 5 voies liturgiques que je vous propose donc, pas seulement la voie eucharistique, parce que nous sommes souvent trop focalisés sur l'Eucharistie, elle est importante, mais la vie liturgique ne se résume pas à l'Eucharistie. Alors, je vous propose de regarder la voie hebdomadaire, la voie annuelle, la voie quotidienne, la voie extraordinaire et la voie ordinaire. Tout d'abord, la voie hebdomadaire. C'est l'Eucharistie dominicale. Le jour de la résurrection, le jour où on fait mémoire du Christ ressuscité, le Christ qui vient à la rencontre de ses disciples en les saluant et en leur disant « La paix soit avec vous ». Et vous savez que le pape Léon a choisi ces paroles lorsqu'il est apparu sur le balcon de Saint-Pierre, et beaucoup de médias avaient relayé en disant « Waouh, ce pape annonce la paix », oubliant peut-être parfois que c'était les paroles du Christ quand même. « La paix soit avec vous ». Et il se trouve que la salutation liturgique commence avec la paix lorsque la liturgie est présidée par un évêque, la paix soit avec vous, mais il y a aussi une nouvelle formule qui est apparue dans le missel nouvellement traduit. Et une des possibilités, c'est que le président, le prêtre, dise que la grâce et la paix de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus le Christ, soient toujours avec vous. Cette paix, c'est vraiment le don du Christ ressuscité. C'est le dimanche, jour mémorial de la résurrection. C'est donc la liturgie eucharistique du dimanche qu'il nous faut contempler. Alors, comme vous avez pu le voir sur le flyer, eh bien, s'il existe au cœur de chaque Eucharistie un rite de paix, c'est toute la liturgie qui est signe et source de paix. Alors à nous de redécouvrir le sens des gestes, des paroles qui nous transforment, qui nous forment à la paix et qui nous donnent d'aller dans la paix du Christ. Comme nous le disent les différentes formules qui concluent la messe et qui contiennent quasiment toute la paix. Aller dans la paix du Christ, aller porter l'évangile du Seigneur, allez en paix et glorifiez le Seigneur par votre vie, ou alors, court, direct, allez en paix. Autrement dit, on peut dire que c'est toute donc la liturgie qui nous conduit à, après sortir de l'Église, pour aller dans la paix, pour vivre dans la paix reçue au cours de la célébration liturgique. Alors je voudrais pointer du doigt 5 étapes que la liturgie eucharistique dominicale nous donne de franchir. La première, c'est l'acte pénitentiel. C'est cette étape fondamentale qui nous rappelle que nous avons péché, que nous sommes bien souvent complices du mal, et donc que le premier foyer de paix à pacifier, c'est nous. Et je me rappelle cette parole écrite par frère Aloïs de Thésée, dans l'une de ses lettres qu'il adressait aux jeunes, une parole qui, je pense, est assez provocante. Il disait « La paix mondiale commence dans les cœurs ». Dans l'acte pénitentiel, surtout la première forme, le fameux « Je confesse à Dieu », est une très belle prière parce qu'elle dit « Je ». Oui, c'est moi qui confesse que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Et c'est pour ça que, eh bien, devant vous, frères et sœurs, et je supplie la Vierge Marie, je supplie les saints et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Cette prière, elle est très belle parce qu'elle est dite en « je », mais elle s'appuie sur un « nous ». Et déjà, on voit bien que la liturgie eucharistique dominicale, oui, elle nous conduit sur le chemin de la paix en reconnaissant que peut-être notre cœur et nos vies sont ravagés et qu'on a besoin des autres pour être guéris et réconciliés. La deuxième étape, c'est la liturgie de la parole. On sait l'importance capitale du dialogue dans le processus de paix, et sans doute que vous en avez parlé tout au long de cette université. Et en ce sens, la liturgie de la parole qui ouvre notre célébration est source de paix, parce qu'elle nous donne à voir, peut-être plus qu'à entendre, elle nous donne de voir. C'est ce que la monition de la veillée pascale nous fait dire juste avant les 7 lectures, hein, cette grande veillée de, autour du feu nouveau de Pâques. Il y a ce grand temps de la liturgie de la parole, et dans le missel il y a cette petite monition que celui qui préside peut dire: écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu, méditons et voyons. C'est drôle qu'on dise ça parce qu'on s'apprête à entendre. Mais là, on nous dit « voyons comment dans les temps passés, Dieu a sauvé son peuple et comment dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons à notre Dieu de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. » Il y a 2 verbes que je veux pointer du doigt ici parce que ce sont ces 2 verbes qui nous aident à comprendre le sens de toutes les liturgies de la parole. Voyons comment Dieu est à l'œuvre et demandons-lui. C'est pas une écoute passive, la liturgie de la parole. C'est une proclamation, une parole adressée et une parole à laquelle on répond. Et j'aime beaucoup relier le mot « réponse » à « responsabilité ». Il en va peut-être de notre responsabilité dans la réponse que nous pouvons faire à la parole de Dieu. Et l'une des manières privilégiées de répondre à la parole de Dieu, c'est le psaume responsorial. Autrement dit, ce temps liturgique nous donne de voir comment Dieu a été à l'œuvre et comment il a mis en œuvre sa paix tout au long de l'histoire. Et par notre réponse, nous lui demandons qu'il continue d'œuvrer encore ici et maintenant pour la paix, pour que nous devenions nous-mêmes artisans de paix. Et il y a cette belle collecte de la messe pour la réconciliation qu'on verra tout à l'heure, mais dans la première prière qui ouvre la célébration, il y a cette belle demande qui peut correspondre d'ailleurs à toutes les célébrations. Fais-nous accueillir sans réserve ta parole de paix. C'est une belle expression. On pourrait chaque fois avoir cette prière avant même qu'on écoute la parole de Dieu. Voilà. Fais-nous accueillir sans réserve ta parole de paix. La troisième étape qui peut surprendre, c'est la quête. La quête est source de paix. Pourquoi ? D'abord, elle est un acte liturgique, il ne faut jamais l'oublier, car historiquement, elle est reliée à la solidarité avec les plus pauvres, en tout cas une solidarité à l'intérieur de la communauté et même à l'extérieur. Et au moment où on dépose le fruit de la terre et du travail des hommes, eh bien, on dépose aussi notre contribution, parce qu'on sait bien que là, Dieu va se donner et qu'en communion à ce don, nous allons nous-mêmes nous donner. Et donc déjà, la quête anticipe ce don. Mais pourquoi j'ose qualifier la quête comme une source de paix ? Parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. Et là, je pense qu'il nous faut nous mettre à l'école du pape Léon, qui, dans sa première encyclique, souligne bien le lien entre la justice et la paix. Or, la quête, c'est pour que règne la justice entre les êtres humains. Donc, elle présuppose, en tout cas, elle nous permet ensuite d'accueillir la paix. Et que nos mots dans la liturgie ne soient pas des paroles en vain. V-A-I-N, parce qu'il y a des paroles parfois qui se transforment en vain, mais ça, c'est autre chose. La quatrième étape, il y en aurait sûrement d'autres, et c'est peut-être à cela que je vous inviterai dans les groupes de partage tout à l'heure. Quels sont les lieux dans la liturgie qui sont source de paix ? J'en ai sélectionné 5, mais je crois profondément que c'est toute la liturgie qui est source de paix. J'en pointe quelques étapes. Donc après l'acte pénitentiel, après la liturgie de la parole, après la quête, il y a ce fameux rite de paix. Et c'est une séquence intéressante à regarder, car elle nous renvoie à une dynamique profonde de la liturgie, celle où le rite, le geste, découle de la parole. Voilà pourquoi aussi on écoute d'abord la parole de Dieu avant de poser des gestes, parce que c'est la parole de Dieu qui suscite des gestes. Cette parole, nous la connaissons, et souvent par cœur, et c'est très touchant, à vrai dire, lorsqu'on célèbre dans des EHPAD ou dans des lieux où les personnes, je dois dire, moi, ma mère, marmonne toujours encore, le Seigneur a dit à ses apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, ne regarde pas mes péchés, voilà. Et c'est très beau que, voilà, de manière très discrète, beaucoup de fidèles redisent cette parole du Christ, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et ensuite, il y a le geste de paix. Un don de Dieu, ça c'est très intéressant, je trouve, par rapport à la liturgie. C'est un don de Dieu que l'on reçoit en se le donnant. La paix que Dieu nous donne dans la liturgie, c'est un don que l'on reçoit en se le donnant. Et je voudrais attirer, peut-être mettre la lumière sur deux petits détails qui n'en sont pas des détails, mais qu'il nous faudrait peut-être redécouvrir. Le premier, c'est qu'on se donne la paix. On ne nous invite pas à nous donner un geste de paix. On ne nous demande pas de nous offrir un signe de paix. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. C'est bien la paix du Christ ressuscité que nous sommes, que nous nous donnons et que nous recevons des autres. Il y a ce beau passage de Saint Cyprien qui nous dit que Dieu ne reçoit pas le sacrifice de l'homme qui vit dans la dissension. Le plus grand sacrifice que l'on puisse offrir à Dieu, c'est notre paix. C'est la concorde fraternelle. C'est le peuple rassemblé par cette unité qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le sacrifice que l'on offre à Dieu le Père, c'est notre paix. C'est très beau, cette expression. Mais cette paix, elle vient lorsque nous nous la donnons. Alors, nos frères orientaux ont choisi de placer ce rite de la paix avant l'offrande eucharistique. Là encore, on voit bien que ce geste découle de la parole de Dieu. En Matthieu 5, 23-25, Jésus qui dit « Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, et si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. » Et j'ai participé récemment à une liturgie chaldéenne, et je dois dire que c'était très fort. Avant même de déployer toute la liturgie eucharistique autour de l'autel, le diacre dit à l'assemblée « Et maintenant, offrons-nous le baiser fraternel de paix, parce que pour que nous puissions véritablement entrer dans le don de Dieu, il nous faut être en paix. » Et à ce moment-là, tout le monde s'embrasse. Alors, le pape Benoît XVI avait été tenté aussi pour l'Église latine de mettre ce rite avant la prière eucharistique. Et puis, finalement, avec l'ensemble de l'Église, eh bien, la décision a été faite de garder ce don de la paix après, dans le mouvement de la prière eucharistique. Pourquoi ? Eh bien, c'était la note principale de l'Eucharistie dominicale. Pour nous, les chrétiens, la paix est un don du Christ ressuscité. Ces deux rites ne rentrent pas en concurrence, ils mettent simplement l'accent sur un aspect du mystère. Donc le premier détail, en tout cas le premier point que je voulais mettre un peu en lumière sur ce rite de paix, c'est on se donne véritablement la paix. On ne se salue pas. Parfois, nos gestes sont comme des salutations. Mais cette salutation, elle doit avoir lieu au début de la célébration. Là, c'est un geste qui est quasiment comme lorsque nous allons communier. Alors c'est le deuxième point que je veux mettre en lumière, et pour cela je voudrais citer une indication que nous donne le missel. Il nous dit qu'il convient que chacun souhaite la paix de manière sobre et uniquement à ceux qui l'entourent. Alors j'entends déjà certains dire que c'est typique du missel et de la liturgie catholique qui nous oppresse. Il faut que ça soit sobre et puis on ne peut pas se déplacer. Alors je vous donne mon interprétation et qui s'inscrit, je pense, dans la tradition de l'Église, tant occidentale qu'orientale. Donner la paix et la désirer pour les peuples qui sont en guerre, comme en Ukraine, en Russie, moi, je suis pour. En revanche, donner la paix à ma voisine, qui est ma plus proche, parce que malheureusement, je ne suis pas proche des Ukrainiens physiquement, je veux dire. Mais donner la paix à ceux qui sont proches, là, on touche du doigt l'exigence et la radicalité évangélique. Et je pense que la liturgie nous forme à la paix. Hein, elle commence avec la paix du cœur et elle commence avec ceux qui sont à notre droite, à notre gauche, qui sont devant nous, qui sont derrière nous. Et vous voyez que c'est symbolique, mais ces personnes-là incarnent, représentent toutes les personnes qui nous sont proches dans nos vies, dans nos différentes activités. Par la liturgie, nous comprenons et nous expérimentons que la source de la paix est dans le geste et la parole, puisque dans ce rite de paix, avant d'aller dans la communion et l'envoi, hein, dans ce rite de paix, on se tourne vers notre voisin, et là, ça fera écho au titre et au thème de l'université, la paix devient le visage de l'autre. Et non seulement il y a cette parole, la paix du Christ, comme le corps du Christ, hein, c'est pour ça que ça serait intéressant de mettre sur le même plan le don de la paix et le don du corps du Christ. La paix du Christ, le corps du Christ. Et de pouvoir se voir et l'accueillir, se le donner. Et forcément, ça me sort de moi-même. Et parfois, certains catholiques, je sais, n'aiment pas se donner la paix. En plus, le Covid a creusé le fossé et nous empêche, alors qu'on se salue de manière très conviviale à la sortie de la messe, hein, là on n'a pas peur de se toucher, mais à la messe, de plus en plus, il faudrait qu'on retrouve de plus en plus de pouvoir se donner la paix par un geste de la main, main sur une épaule, voilà, de pouvoir aussi que ça soit lié au mystère du corps du Christ et qui s'incarne dans mes frères et sœurs. La cinquième étape, c'est la communion et l'envoi. La liturgie nous permet, à travers tous ces gestes, toutes ces paroles, de trouver l'unité en soi. Il y a une réconciliation du corporel, du spirituel. Et la paix, finalement, elle est liée à l'unité du corps, l'unité de l'esprit, l'unité de nos paroles, l'unité des gestes. En ce sens-là, la liturgie nous forme à la paix. Il y a une certaine harmonie, unité qui se dégage et qui se goûte dans nos liturgies. En soi, mais aussi avec les autres. Et pour moi, l'un des éléments liturgiques qui nous le fait goûter, c'est à la fois le silence que l'on goûte après la communion. On sent bien que ce n'est pas un lieu vide, mais un espace plein où on forme un seul tout, où, comme on disait il n'y a pas très longtemps, eh bien, communier au corps du Christ, c'est aussi communier entre nous, et ça nous engage dans notre unité. Mais aussi, il y a le chant qui permet l'unité des voix, et à travers l'unité des voix, la célébration de la communion d'une même foi. Chanter ensemble nous conduit à la paix. Voilà pour les cinq étapes de la liturgie eucharistique dominicale que j'ai pointé du doigt. Il y en aurait d'autres. Je voudrais maintenant qu'on puisse contempler la voie hebdomadaire que nous offre la liturgie pour nous former à la paix. C'est la voie annuelle. Et ici, il faudrait contempler l'année liturgique avec cette succession des différents temps qui nous mènent à la paix du ressuscité. Dans l'année liturgique, il y a un cœur, c'est Pâques, et encore plus la semaine sainte. Et il faudrait passer du temps pour voir en quoi, eh bien, la ritualité des rameaux, et puis le lavement des pieds du jeudi saint, l'adoration de la croix le vendredi, l'attente du samedi, et puis de pouvoir nous replonger dans l'eau baptismale de la nuit pascale. Tous ces rites nous forment à la paix. Pourquoi ? Parce que elle nous montre que la paix du ressuscité traverse notre temps et qu'elle passe par nos murs de haine et de violence. Chaque année, la liturgie nous convoque, c'est le carême, et ce carême nous donne de pouvoir nous plonger véritablement dans la paix du ressuscité. Autre point que nous pourrions voir dans la voie annuelle, c'est que, et pour cela je prendrai le début et la fin de l'année liturgique, le début de l'année liturgique c'est l'Avent, alors on se prépare pour Noël, et Noël on sait bien que c'est le prince de la paix qui va naître, et que comme le chantent les anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Donc chaque année liturgique commence avec la célébration du don de la paix qui apparaît sur un visage, non pas celui de nos frères et sœurs à la messe, mais là, pour nous, les chrétiens, la paix a un visage, c'est Jésus. Et nous savons qu'elle est venue sur notre terre, et qu'en même temps, il y a plein de signes qui nous montrent qu'elle n'est pas totalement dans les cœurs. Et le temps de l'Avent, non seulement nous prépare à Noël, mais elle nous garde vigilants pour que toutes ces promesses de paix que nous entendons dans les prophètes, surtout Isaïe, puissent véritablement s'accomplir. En ce sens-là, la liturgie est source de paix parce qu'elle nous fait goûter quelque chose, comme lorsqu'on boit de l'eau, mais on a toujours soif. Et la liturgie nous fait boire à la source et en même temps, elle maintient notre soif pour que cette paix qui se reflète sur le visage du Christ puisse véritablement s'incarner et porter du fruit dans nos vies. Et la toute fin de l'année liturgique, c'est la fête du Christ, roi de l'univers. Et la préface nous dit que son règne est un règne de justice, d'amour et de paix. Il faudrait contempler cette trinité, justice, amour, paix. Mais je passe à la voie quotidienne. Après la voie hebdomadaire, l'Eucharistie dominicale, la voie annuelle, tous ces temps liturgiques qui finalement, si on les lit les uns avec les autres, tracent un chemin de paix, eh bien il y a une voie quotidienne, c'est la liturgie des heures. Et je vais employer une expression que j'ai entendue de la part de mon directeur, le directeur de l'Institut supérieur de liturgie, Marco Gallo, qui résumait très bien en disant que la liturgie des heures, c'était la prière de tous que personne ne prie. Parce que depuis le Concile Vatican II, l'Église a déclaré solennellement, formellement, que la liturgie des heures n'est pas que la prière des religieux, des moniales, des prêtres. Eux s'engagent à vie à la prier, mais ce n'est pas la prière de quelques-uns, c'est la prière de tous. Les laudes, la prière du milieu du jour, les vêpres. Cette liturgie des heures marque notre temps et elle prend corps grâce aux psaumes, puisque vous le savez, la matière première de la liturgie des heures, ce sont les psaumes. Et je voudrais qu'on puisse contempler peut-être ce que dit le prophète Samuel en 1 Samuel 16, 23, puisque vous savez que les psaumes sont rattachés traditionnellement à David, qui, sur sa cithare et son psalterion, laissait l'esprit chanter en lui. Et vous savez que ça se passait pas très très bien avec le Messie de Dieu, Saoul. Pour l'apaiser, David chanter ces cantiques. Et la Bible nous dit, donc en 1 Samuel 16, 23, « Lorsque l'Esprit de Dieu venait sur Saül, David prenait la cithare et en jouait. Alors Saül se calmait et se trouvait bien. L'esprit mauvais s'écartait de lui. » Alors, en quoi les psaumes nous permettent-ils de retrouver la paix? Je pense qu'ils nous donnent accès à la paix parce que nous pouvons y crier tous nos désespoirs et même parfois notre violence. J'aime penser que les psaumes, c'est la voix de la violence que nous devons exprimer pour ne pas l'appliquer dans nos vies. Et d'une certaine manière, la liturgie nous donne cet espace où on peut crier toutes nos souffrances, nos injustices. Mais Dieu, que fais-tu? Tu ne vois pas que ton peuple périt, tu ne vois pas que les ennemis sont là, mais vas-y, écrase-les. Et que... Donc il y a une violence qui, je pense, peut être transfigurée grâce à ces textes qui reviennent à toutes les heures. Parce que, eh bien, notre cœur, si je reprends la parole du frère Aloïs, eh bien, notre cœur est toujours menacé par les conflits. Et voici que la liturgie nous donne à chaque heure, alors pas à toutes les heures, mais le matin, le milieu du jour, le soir, comme pouvoir de nous replonger dans cette paix que Dieu nous donne. Et je voudrais, là où encore, mettre la lumière sur deux cantiques qui structure la journée, celui du matin et celui de la soirée, pour voir que la liturgie est bien source de paix, en tout cas elle nous ouvre un chemin, puisque le grand cantique du matin, c'est celui de Zacharie, qui chante lorsque nous visite l'astre d'en haut, eh bien Dieu vient illuminer ce qui habite les ténèbres et l'ombre de la mort pour conduire nos pas sur le chemin de la paix. Chaque matin, lorsque le soleil chasse l'obscurité de la nuit, on demande à Dieu eh bien, de venir éclairer tous ceux qui gisent dans les ténèbres, mais aussi nous conduire sur le chemin de la paix. Et le soir, avant de se coucher, le cantique qui structure l'office, le dernier office de la liturgie des heures, c'est le cantique de Siméon, qui demande à Dieu de laisser son serviteur s'en aller en paix, selon sa parole, parce que ses yeux ont vu le salut qui préparait à la face des peuples. Autrement dit, je résume. Le matin, on demande à Dieu, grâce à cette lumière qui jaillit, que symbolise le soleil, mais qui est véritablement lui, le Christ, toi, tu viens nous illuminer. Allez, ouvre notre chemin et conduis nos pas sur le chemin de la paix. Et le soir, nous sommes invités à contempler ce chemin de la paix que nous avons parcouru. Alors, tu peux vraiment laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, mais dans cette paix que j'ai vue. Voilà pourquoi le dernier office de la journée peut être introduit par une contemplation de ce qui s'est vécu dans la journée. Quatrième voie, les messes pour circonstances particulières. C'est la fameuse voie extraordinaire. Il se trouve que dans le missel romain, il y a des formulaires que nous ne prenons pas forcément toujours pour des circonstances particulières. Lorsque justement la paix est menacée, alors il y a des différentes célébrations que nous sommes invités à prendre. La première, c'est la messe pour la réconciliation. Voici ce qu'elle dit dans la préface, dans la deuxième messe pour la réconciliation. « Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur. Quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce. » Très beau texte. Et puis juste avant l'appel de l'Esprit-Saint et les paroles de consécration, il y a ce beau texte. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu nous donnes. Et puis dans les intercessions qui constituent la prière eucharistique, la paix apparaît avec l'Église. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix. Belle messe pour la réconciliation, mais il y a aussi d'autres formulaires pour favoriser l'union des cœurs. Il y a aussi une messe pour l'unité des chrétiens, où on demande à Dieu de jeter un regard de paix, rechercher avec confiance dans le lien de la paix l'unité. Accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix. Ces textes-là nous montrent que l'unité et la paix sont fortement reliés. Et l'antienne de communion, qui sert de base pour le chant de communion, c'est Colossiens 3, 14, 15, que dans vos cœurs exulte la paix du Christ. Mais il y a aussi une messe pour une réunion d'ordre spirituel. Alors là, on se dit, mais c'est quoi le lien avec la paix ? Eh bien, on demande à Dieu de répandre un esprit d'intelligence, de paix et de vérité, lorsque l'Église doit se rassembler pour un motif particulier. Il y a un formulaire pour le pays ou la cité, où on demande à Dieu que la paix favorise un bonheur durable. Il y a aussi un formulaire de messe pour les responsables politiques et pour une réunion de chefs d'État, afin qu'ils prennent toutes mesures en vue du bien commun et de la paix. Il y a aussi une messe pour le développement des peuples, afin que la famille des peuples trouve son unité dans la paix qui vient de toi. Il y a aussi un formulaire de messe en temps de guerre ou de troubles graves, et aussi un formulaire de messe pour ceux qui nous font souffrir. Tous ces formulaires de messe que beaucoup ignorent, j'oserais pas dire aussi les prêtres, mais en tout cas, on n'a pas forcément l'habitude. Tous ces formulaires viennent illustrer un propos de frère Roger de Thésée qui disait que rien n'est plus responsable que de prier. Parce qu'on pourrait se dire que la prière est comme une fuite du monde. Hein ? On pourrait croire ça, mais ça, c'est pas catholique, c'est pas chrétien de croire que la prière nous évacue de toute la condition humaine. Rien n'est plus responsable que de prier. C'est une autre manière pour dire que finalement la liturgie est source de paix parce que elle nous met en position de réception de la paix que Dieu nous donne. Je voudrais peut-être regarder un peu plus avec vous le formulaire pour la paix et la justice, parce qu'il y a un formulaire pour la paix. L'antienne de communion est tirée du livre du Siracide. Et on voit bien que là, que la liturgie nous met dans un mode de réception, puisque la messe commence avec ce verset. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'attendent. Exauce la prière de tes serviteurs. Dirige-nous sur le chemin de la justice. Hein, on voit bien que là, on est en mode attente. Viens nous donner ta paix. Ce qui veut dire qu'on croit que dans la liturgie, Dieu va nous la donner. Dans la prière qu'on appelle la collecte, c'est la première prière de la liturgie. Il y en a deux au choix. La première, Seigneur Dieu, tu as révélé au monde que les artisans de paix seraient appelés tes fils. Hein, on entend les béatitudes. Aide-nous à rechercher toujours cette justice, la quête, qui seule peut garantir une paix solide et véritable. Mais il y a une autre prière possible que l'on peut prendre. Seigneur Dieu, tu prends soin de tous comme un père. Nous t'en prions, puisque tu as donné à tous les hommes une même origine, donne-leur de former une même famille dans la paix et d'être toujours unis dans un esprit fraternel. Cette prière met davantage l'accent sur l'unité, alors que la première était plus sur la justice. La liturgie de la parole, il faudrait passer du temps à regarder les textes qui nous sont proposés. Justement, comment voir, pour reprendre cette formule, il y a 4 lectures de l'Ancien Testament, toutes tirées du prophète Isaïe. Il y en a 3 possibles du Nouveau Testament, 3 psaumes responsoriaux, mais je voudrais peut-être qu'on regarde davantage les évangiles qu'on nous propose pour cette messe pour la paix. Eh bien, les béatitudes, ou alors ce passage de l'évangile selon saint Matthieu, « Aimez vos ennemis », ce qui nous fait du doigt, toucher du doigt cette radicalité de l'évangile où la paix s'incarne dans l'amour des ennemis. Et puis bien évidemment, « Je vous donne ma paix » en Jean 14. Et puis, Jean 20, « La paix soit avec vous », cette salutation du ressuscité avec laquelle on a commencé tout à l'heure. La prière sur les offrandes. Nous célébrons, Seigneur, sous le signe des sacrements, le sacrifice du salut offert par ton Fils, le Roi de paix. Nous t'en prions, puisque cette offrande est signe de paix et d'unité, qu'elle contribue à raffermir la concorde entre tous tes fils. Là, on voit bien que la prière nous fait articuler 3 éléments. D'abord, le Roi de paix. Jésus est le Roi de paix. Et cette paix, il nous la donne à travers des signes, le pain, le vin, la communauté et plein d'autres signes. Eh bien, qu'elle puisse affermir notre concorde. Le Christ, la médiation du pain et du vin et notre propre communion. Voilà le chemin de la liturgie comme source de paix. L'antienne de communion fait résonner des passages évangéliques qu'on a évoqués tout à l'heure. Et puis, je terminerai avec la prière post-communion, cette fameuse prière qui achève, ou plutôt, j'aime bien voir cette prière comme celle qui nous permet de relier la liturgie à notre vie. Hein ? Vous savez, cette prière que personne n'écoute parce qu'on est en train de se dire « Ah ben ça y est, la messe elle est finie, je vais pouvoir sortir. Ah, il ne faut pas que j'oublie de dire ça à Micheline. » Et puis nous, les prêtres, on se dit « Alors, il ne faut pas oublier l'annonce. » Bon, cette prière, elle passe souvent à la trappe. Alors qu'elle est capitale parce que c'est celle qui nous fait rendre grâce pour tout ce que la liturgie nous a donné. Et on va demander à Dieu qu'on puisse l'incarner dans nos vies, hein, qu'elle puisse porter du fruit, cette grâce reçue. Alors dans le formulaire pour la paix, voici ce qu'elle nous fait dire. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin que, nourris par le corps et le sang de ton Fils unique, nous fassions fructifier entre tous la paix qu'il a lui-même laissée. Donc ici, on voit de nouveau la charité comme moteur de la paix et à nous de la faire fructifier, hein, ce don reçu. Nous avons contemplé rapidement la voie hebdomadaire dans l'Eucharistie dominicale, la voie annuelle avec cette dynamique des temps liturgiques. Nous avons contemplé la voie quotidienne, la liturgie des heures, qui est c'est une voie que je nous invite à prendre, tous, hein, tous les chrétiens, à pouvoir vraiment pratiquer cette prière qui nous permet de trouver la paix, hein, dans toutes les heures de nos journées. Et puis, il y a une voie extraordinaire, hein, on n'est pas tout le temps en pays de guerre, même si certains le sont depuis longtemps. Mais je vous avais dit qu'il y avait une voie ordinaire. Eh bien, ce sont les sacrements. On oublie trop parfois que célébrer le pardon du Seigneur dans ce qu'on appelle peut-être trop rapidement la confession, eh bien, c'est une liturgie. Il y a un accueil mutuel, il y a une proclamation de la parole de Dieu, il y a un aveu, il y a à la fois une communion et un envoi aussi. Si vous ouvrez le rituel de réconciliation, eh bien, le prêtre doit renvoyer dans la paix la personne qui est venue pour la réconciliation. Mais on peut aussi voir l'onction des malades comme une source de paix dans la chair blessée, le mariage, l'ordination. Tous ces sacrements sont source de paix. Parce que il y a des paroles et des gestes, des ministres et des lieux qui nous donnent et nous redonnent la paix. La liturgie est source de paix parce qu'elle nous donne de nous tourner vers le cœur de Jésus, ouvert sur la croix, qui justement dans ce lieu de division, de violence, qu'a-t-il fait Jésus dans, au cœur même de la division et de la guerre, qu'a-t-il fait dans ce contexte d'incompréhension, d'injustice? Il a ouvert son cœur. Et l'Église reconnaît les sacrements comme ce qui jaillit de son cœur. Mais il y a plusieurs voies, il y a plusieurs chemins qui nous conduisent à ce cœur. Et c'est ce que je voulais qu'on puisse contempler ensemble pour qu'on puisse y reconnaître le don de la paix de Dieu. Pas cette paix que, Dieu, que le monde donne, mais la paix que Dieu lui-même nous donne et qui fait de nous des artisans de paix, puisque Dieu est artisan de paix. Et il fait de nous aussi des artisans de paix. Voilà, merci pour votre écoute.